Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie, mon frère, ma sœur. Voilà les vœux de bonne année du roi David pour notre assemblée. C'est un peu anachronique, mais vous prenez ? Ça vous va ? Oui. Tant mieux, parce que sinon, je ne savais plus quoi dire. Le bonheur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais les vœux de bonne année ne coûtent pas cher à ceux qui les formulent. À bien y réfléchir, d'ailleurs, est-ce possible d'être heureux tous les jours de notre vie ? Et d'ailleurs, est-ce bien ce qui est affirmé dans ce psaume, qu'il faut être heureux tous les jours de sa vie ? Nous allons voir. Mais regardez que David, dans ce psaume 23, ne dit pas qu'il est heureux, comme s'il s'agissait d'un statut, d'une réalité accomplie une fois pour toutes. Il ne nous donne pas non plus de recette magique pour être heureux H24. Il ne nous dit pas non plus, comme certains peuvent le faire, que le bonheur, bon, c'est pour la vie d'après. La vie d'après Covid ou la vie d'après d'après. Non, David témoigne de la présence du bonheur dans sa vie. C'est quelque chose de tout simple. Quelque chose qui est là et qui l'accompagne dans les jours faciles et aussi dans les traversées obscures. Et Dieu sait que David en a connu des jours terribles. On pourrait citer la fuite loin de Saül, son maître, un maître en proie à des démons de terribles, terrifiants, hein, de violence. La mort de son fils Absalom, dont il est indirectement responsable. Et puis, il faudrait aussi parler de la honte, de la culpabilité qui ont rongé le cœur de cet homme, David, à cause des crimes qu'il a commis. Et malgré cela, David, dans ces deux psaumes, le psaume 1er et le psaume 23, nous parle du bonheur. Il ne s'agit pas, je pense, d'un bonheur à fabriquer, à posséder, mais plutôt d'un bonheur compagnon qui fait route avec nous. Et c'est, je le crois, de ce même bonheur dont nous parle Jésus dans l'ouverture de son enseignement, dans ce fameux sermon sur la montagne. Il ne s'agit pas d'un bonheur idéal. Il s'agit d'un bonheur qui est plus fort que les pleurs, que les manques, plus fort que les injustices, plus fort que les violences. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, heureux les persécutés. Parce qu'un bonheur compagnon, ce bonheur biblique, décrit une façon d'être, jamais une possession, un acquis. Et puis, je crois que le bonheur biblique, contrairement au bonheur que nous nous souhaitons en ce début d'année, n'est pas un bonheur à 100%, un bonheur évident, comme la fameuse formule des vœux que j'aime pas, que quand on me la souhaite, j'ai quelque chose qui se durcit en moi, mais je pardonne à tous ceux qui me l'ont souhaité. Hein. C'est santé, prospérité, réussite, et on rajoute toujours, et surtout la santé, hein. Non, on ne vous l'a pas fait cette année ? Si, un peu. Mais le bonheur biblique, ce n'est pas ça. C'est quelque chose d'un peu mystérieux. Pour reprendre des catégories de l'Évangile, c'est un trésor caché, le bonheur biblique, qui est là au milieu du reste, vous voyez ? Un peu enfoui. Il faut apprendre à le découvrir au-delà des apparences et même dans les soucis. Ce bonheur est un peu comme une... Ben Eliot l'a dit tout à l'heure, hein, comme une personne qui est là et qui vous accueille, que ce père. qui est là. Mais c'est souvent une présence silencieuse aussi, mais sur laquelle on peut compter. Il y a des gens comme ça qui ne parlent pas beaucoup, mais on a besoin d'eux quand ça va mal. Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils sont là. C'est un peu ça aussi, le bonheur biblique. Une des toutes premières choses que j'observe dans la bouche de David, c'est que le bonheur n'est pas quelque chose qui se consomme. Là aussi, c'est très différent de ce que nous entendons, des conceptions modernes. C'est quelque chose qui se déclare, qui s'affirme, j'allais dire qui se confesse, qui se proclame, un peu comme la foi. On ne voit pas Dieu, mais on est sûr de sa présence. Ben c'est pareil avec le bonheur. Ce n'est pas tous les jours grand beau dans nos vies. Mais tous les jours, nous sommes invités à découvrir comment nous pouvons être heureux, quel que soit le temps qu'il fait dehors. C'est une grâce, finalement, c'est une grâce magnifique, hein, de se découvrir quand même un peu heureux quand tout semble s'effondrer autour de nous, que la déception, la peur, la souffrance, la rupture, la mort nous frappent, nous encerclent. Et ce qui est aussi très particulier avec le bonheur biblique, c'est qu'il est considéré comme une grâce, non pas comme un dû, comme une rétribution. Non, nous avons droit au bonheur, même si nous n'avons rien fait pour le mériter, pour l'obtenir. C'est comme ça. Le bonheur biblique, c'est une grâce, une gratuité. Il se reçoit pour rien. Surtout pas pour ce que nous faisons valoir de beau et de bien dans nos vies. Il est pure grâce de Dieu. Alors, voilà, si vous voulez avoir, au cours de cette année 2022, de l'énergie à revendre, faites donc l'expérience de David. Confessez le bonheur. Si tout va de travers, ça peut arriver dans nos vies, hein. Vous avez peut-être mille raisons de vous plaindre de vos frères et sœurs dans l'église, je ne sais pas, de votre conjoint, de vos collègues de travail. De la pandémie, la liste est longue, hein. Eh bien, dites avec foi, le bonheur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, chaque jour. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vos frères et vos sœurs, vos conjoints, votre patron, vous apparaîtront sous un jour un peu différent. Ils auront, en tout cas, perdu le pouvoir sur vous. Ils seront rendus incapables de ligoter vos vies dans le mépris, dans la tristesse, la rancœur. Confesser le bonheur peut devenir, pour nous, un puissant moteur d'existence et de liberté. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il reste à savoir quand même ce que c'est concrètement ce bonheur biblique. C'est le tout premier mot des psaumes, hein. Le psaume premier commence par ce mot-là, heureux. C'est aussi le tout premier mot de la prédication de Jésus. C'est un mot important. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Alors en hébreu, certains le savent, hein, le mot hébreu est construit sur une racine d'un verbe qui veut dire être en marche, avancer. Acheré. L'homme heureux est donc, premièrement, essentiellement, celui qui avance, celui qui trace sa route. Quand le ciel est bleu, que tout va bien, on marche avec assurance dans la vie, avec aisance, on peut même courir joyeusement. sereinement. Et puis quand la vallée obscure vient à être traversée, alors là, le bonheur reste toujours notre compagnon, mais le rythme se fait plus lent et les pas deviennent lourds et quelquefois même douloureux. Comme par exemple dans un deuil qui vous frappe. Il faut du temps pour se relever. Mais on avance quand même. Et puis, comme par miracle, vient le jour de la sortie du deuil. Ça, c'est fait. J'aime beaucoup l'exemple d'Abraham, qui est très parlant. Vous savez, cet appel de Dieu à quitter son pays pour se mettre en route vers l'inconnu. Va vers le pays que je te montrerai. C'est dans ce mouvement, dans cette marche vers l'inconnu que se trouve la bénédiction de tous les peuples. Et quand Jésus, dans l'évangile de Jean, va décliner son identité, « Je suis », quand on dit « Je suis », c'est qu'on parle de son identité profonde. Que dit-il ? Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il donne de lui une vision quand même très dynamique, hein, Jésus. C'est un marcheur infatigable pour ceux qui ont parcouru l'évangile. Il passe toujours d'un endroit à l'autre. La vie véritable, la vie heureuse, c'est donc s'engager sur ce chemin qui est lui-même, comme chemin, le Christ. Voilà la première chose qui donne consistance à ce bonheur, c'est une marche. Mais le mouvement, la marche ne sont pas la seule manière dans la Bible de parler du bonheur. Et d'ailleurs, heureusement, parce que ça pourrait devenir un peu fatigant, hein, certains jours, d'être tout le temps sous pression. Il faut y aller, il faut marcher, il faut avancer. La vie chrétienne n'est pas tout le temps cette course effrénée qui finirait par tourner un peu à l'agitation, hein. Et Jésus a su aussi se reposer, se mettre à l'écart, prendre du repos. C'est l'autre mot qui peut nous aider à comprendre ce que le bonheur biblique signifie. C'est le mot repos, Shabbat en hébreu. Dieu, au début, au commencement, crée le monde en 6 jours et le 7e, il le consacre au repos. Le repos biblique, le Shabbat, c'est pas faire une sieste, hein, même si c'est très très bien, hein, de faire la sieste, mais très très bon plutôt. Mais c'est pas exactement ça. Le bonheur Shabbat, c'est d'être là, sans rien faire, de s'arrêter, de contempler ce qui existe, de beau et de bon, et de pas oublier de bénir. Comme Dieu l'a fait. Quand Dieu dit en regardant sa création qui est achevée que cela est très bon, il voit et il célèbre ce bonheur-là, le bonheur de voir, de contempler le beau et le bon. Donc s'il y a du bonheur à avancer dans la vie, à mener des projets, il y a aussi un grand bonheur à exister, simplement. À ouvrir grand nos yeux pour dire merci. Merci d'être là. Arrêter de produire, arrêter d'agir pour être soi dans ce monde, simplement, en relation avec les autres, avec Dieu. Voyez ce bonheur de la contemplation, de la célébration, de la relation aussi, est très présent dans le psaume 1, parce que ce n'est pas l'image de la marche, c'est l'image de l'enracinement. L'arbre planté auprès du ruisseau, auprès de l'eau, qui donne son fruit en son temps. Voilà l'enracinement qui produit de la croissance et aussi de l'abondance. C'est le travail invisible et sûr de l'Esprit Saint en nous. purifie nos vies peu à peu. Voilà ce qu'est le bonheur dans la Bible. Marche et réjouissance. Mouvement et contemplation. Engagement et repos. L'un ne va jamais sans l'autre. Cette double dynamique, eh bien on la retrouve dans le dernier verbe du psaume 23. On peut le montrer. Le psalmiste finit en disant « Je reviendrai », mais certaines versions traduisent aussi « J'habiterai dans la maison de l'Éternel ». Eh bien, pourquoi il y a ces deux traductions différentes ? Ce n'est pas la même chose, hein, « revenir » ou « habiter ». Mais parce que l'hébreu est subtil et qu'il contient ces deux dimensions dans le même verbe. Et on retrouve là ce bonheur à deux temps, double face, que la Bible nous appelle à vivre et qui est à la fois chemin et contemplation, progression et louange, engagement et reconnaissance, service, don de soi et accueil passif de la grâce, passif et joyeux. Alors mes voeux pour cette nouvelle année, pour chacun de nous, sœurs et frères, c'est que nous nous trouvions sur l'un ou l'autre de ces deux versants du bonheur, peut-être sur les deux à la fois, dans l'action de grâce et ou dans la conduite de projets ambitieux au service du rayonnement de l'Évangile ici à Bordeaux, puisque nous sommes là, dans la célébration de la vie en Christ et dans le service de tous. Amen.